Je voudrais remercier les organisatrices pour leur invitation, pour leur accueil. Tout à fait sympathique et chaleureux. Alors, j'ai l'impression que je suis le plus vieux de toute la clique, là. Donc, vous avez affaire en réalité à un fossile. Je ne vais pas vous dire depuis. Quand je m'occupe de statistiques, ça fait trop longtemps. Alors, je vais essayer de vous expliquer rapidement trois choses. Premièrement, d'abord, je travaille essentiellement, pas seulement, mais surtout sur des corpus de textes historiques. Donc, qu'est-ce qui distingue corpus historique d'autres corpus ? Donc, deuxièmement, les problèmes pratiques que pose un historien, spécialement un médiéviste comme moi, ces fameux corpus. Troisièmement, qu'est-ce que j'entends par sémantique historique ? Alors, première chose, c'est relativement simple. Les corpus proprement historiques sur lesquels travaille en principe, devrait travailler l'historien, c'est généralement le cas. D'abord, ils sont fixes, c'est-à-dire que contrairement à un corpus sur Internet ou un corpus d'entretien qui vient, on peut en ajouter n'importe quoi, en principe, les chartes du monastère de Tibet, il y en a X, il y en a 600 ou 400, mais il y a peu de chances qu'il en vienne de plus. Donc en réalité, c'est des textes, anciens, donc il y a... De toute façon, en admettant qu'on arrive à tout numériser, tout ce qui existe, il y a une limite. On ne peut pas en ajouter. Hein. C'est tout le problème de l'héritage culturel, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'il y a, mais il ne peut pas y avoir plus. On ne peut pas fabriquer des maisons anciennes, bon. On ne peut pas non plus fabriquer des corpus historiques. Donc c'est fixe. Deuxième chose, c'est relativement court et bref par rapport au corpus qu'on voit quand on entend les collègues qui font du TAL ou enfin, du NLP, je ne sais quoi, ce genre de choses. Tout de suite, il y a les corpus, il y a X milliards de mots, bon, puis de toute façon, combien de fichiers récupérables sur Internet en un quart d'heure, on ne sait pas trop, mais ça dépend de la rapidité avec laquelle on travaille, ça fait beaucoup. Donc, de toute façon, par rapport à tout ça, le corpus historique, il est toujours relativement bref, et même, je vous dis, en le faisant absolument complet. Et ça pose des problèmes, précisément, de taille, parce que les statistiques, malgré tout, même en langue, quand vous avez une certaine taille. Une troisième chose sur laquelle je tiens à insister énormément, c'est que tous ces corpus ont été rédigés, enfin tous ces textes ont été rédigés par des gens qui sont morts depuis une éternité, enfin presque. C'est-à-dire que, je le répète autant que je peux et jusqu'à mon dernier souffle, la loi et les traités internationaux sont comme ils sont et jusqu'à présent on n'a pas décidé de les changer. Les auteurs morts depuis plus de 70 ans, tout ce qu'ils ont pu fabriquer, écrire et gratter sur du papier ou sur du parchemin, c'est dans le domaine public. Il n'y a aucun moyen de les faire rebasculer dans le domaine privé. D'ailleurs, vous pouvez les éditer, même au point de vue philologique. Le philologue qui prend un manuscrit, qui transcrit, le texte qu'il a transcrit, il est du domaine public. Et le fait que le philologue travaille dessus ne change strictement rien à la nature du texte qui a été écrit en 1380 ou même avant. Donc le philologue, il est propriétaire des notes, il est propriétaire de la traduction, il est propriétaire de tout ce que vous voudrez, mais pas du texte. Le texte, il est dans le domaine public. Donc tout, par exemple, ce que vous trouvez sur des CD-ROM, ou sur des sites internet, n'importe où, si c'est des auteurs qui sont morts avant 1940, sauf pour les morts pour la France, mais enfin bon, moi c'est pas mon sujet, enfin disons tous les auteurs médiévaux, modernes, enfin tout ça, c'est le domaine public. Il n'y a pas l'ombre d'une discussion. Il faut accepter de discuter avec aucun éditeur, aucun charlatan qui va vous dire « mais ça, j'ai des droits sur ce texte ». Et quand est mort l'auteur, c'est le seul critère, il n'y en a pas d'autre. N'oubliez pas, la numérisation, la photocopie, l'impression, l'édition, tout ce que vous voudrez, tout ça ne crée aucun droit. Il n'y a un seul droit, c'est le droit d'auteur et la date de mort de cet auteur. Les traités internationaux, ils sont sur Internet, c'est la Convention de Berne, le code de la propriété intellectuelle, tout ça, vous pouvez y aller, et vous, d'ailleurs, vous pouvez. Ce sont d'excellents exercices de statistique lexicale. Téléchargez ça, sous-minorisée, et puis vous pouvez faire des statistiques dessus tant que vous voudrez, et vous allez voir en quoi consistent les droits d'auteur. Ce que c'est qu'un droit sur les textes, il y a des droits d'auteur et il n'y a rien d'autre. Alors, il y a le droit moral qui est éternel, comme vous savez, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de modifier le texte. Et tous les droits annexes, commerciaux ou autres, sont éteints depuis plus des siècles. Et ils ne peuvent pas réapparaître. Je vous savez, une fois pour tout, derrière le crâne, devant, et quand on voit qu'il y a des collègues qui hésitent à mettre en ligne un texte sous prétexte que c'est un texte du XIIIe siècle, sous prétexte qu'il y a eu un philologue américain qui a édité ce texte récemment, mais c'est à se jeter par la fenêtre du cinquième étage. Bon. Donc c'est des textes qui sont fixes, des corpus qui sont fixes, des corpus qui sont brefs, des corpus qui sont dans le domaine public, dans lequel vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, et notamment les mettre en ligne. Deuxièmement, les problèmes techniques qui se posent pour les textes relativement anciens, ou d'ailleurs même des fois encore des textes plus récents du 19e, voire du 20e siècle. Il y a trois questions générales. C'est que, pour beaucoup de textes, on ne connaît pas la date de rédaction. Ou on le connaît très mal. On se dit, ouais, ça c'est un texte à vue de nez, oh, ça doit même du XIIIe siècle, comme ça. Pourquoi ? Oh, ça a une impression, une habitude, tout de suite. Bon. Et qu'un texte soit antérieur à un autre, ou bon. Donc si vous voulez faire des chronologies qui sont quand même des clés pour faire avancer la science, voir l'évolution du vocabulaire, mais si on n'a pas la date du texte, comment voulez-vous faire l'évolution ? Bon. Ensuite, savoir où. Le latin médiéval, puisque c'est en fait mon principal sujet d'intérêt, c'est le latin. Le latin entre les pères d'Église et le XVIIIe siècle. Ce latin, bon, c'est pas un latin, il y a un latin dans chaque pays. C'est clair qu'il y a des termes que vous verrez apparaître en Espagne ou en Allemagne, qui ne verrez jamais apparaître. Les termes allemands, vous les verrez jamais en Espagne, réciproquement, etc. Donc il y a des particularités géographiques, il y a une géographie linguistique du latin médiéval, et rien ne prouve. Jusqu'à présent, il n'y a aucun travail sérieux sur le sujet. On suppose, on a vaguement l'intuition qu'il y a une géographie linguistique du latin médiéval, mais on ne sait même pas d'ailleurs depuis quand, et on ne sait pas si elle est fixe. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une géographie linguistique du latin au XIe siècle, est-ce que c'est la même que celle du XIVe ? Ben, on ne sait rien. Donc, si vous voulez, la quantité de choses de base, fondamentales, qu'on ne sait pas, c'est énorme. Et puis, naturellement, quand vous prenez par exemple des corpus, même des corpus édités, comme la Patrologie latine, ceux qui connaissent un peu le Moyen-Âge, ça c'est un des grands corpus, il est numérisé depuis la lurette, depuis enfin, le premier scélérome important qui est paru, c'est en 92 ou 13, il y a 60 millions de mots, et vous avez l'indication d'auteur. 40% des textes sont marqués auctor incertus. On ne sait pas qui c'est. Et en plus de ça, parmi ceux qui sont attribués, on sait en gros qu'il y en a 10 à 20% qui sont attribués à un auteur qui n'est pas le bon. Donc au total, la moitié des textes, je ne sais pas qui les a écrits. Ça fait quand même beaucoup. Donc vous ne savez pas la date, c'est pas le lieu, c'est pas l'auteur. C'est quand même des problèmes importants pour un historien un lambda qui ne veut pas faire théorie, mais. C'est le problème comme en pratique. Hein. Même un chartiste à la con comme moi, par exemple, bah, il veut d'abord savoir ça. De toute façon, tant que vous ne savez pas ça, faire des manies pour traiter le corpus, ça, vous êtes obligé à ce moment-là de prendre ça comme une masse indistincte, et vous avez un fort risque de mélanger des choses qui ont été, vont pas ensemble, et donc de ne pas voir des structures qui existent, ou d'en voir qui n'existent pas. Je prends quelques exemples sur lesquels je travaille. Par exemple, les chartes. Aussi, ceux qui ont fait quelques vagues études d'histoire savent vraiment ce que c'est qu'une charte, donc un document émis par une institution souvent ecclésiastique entre le Xe et le XIIIe siècle. Parchemin, ou alors recopié dans un registre. Actuellement, sur Internet, si vous savez bien pêcher les textes sur Internet, vous en trouvez, on ne sait pas trop, 400 000, 500 000. Personne ne les a jamais étudiés, enfin peut-être. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de faire, non pas même, enfin, faire un corpus si on peut, il faut en faire même plusieurs, mais les 500 000, on ne sait même pas les couper en morceaux, on ne sait pas comment les distinguer, tout ça. Bon. Et je peux vous dire que ça, c'est un corpus quand même un des plus importants qui existent. Il y en a pour toute l'Europe, et il y en a pour depuis le 9e jusqu'au 14e siècle. Donc on peut espérer une géographie linguistique, on peut espérer une chronologie de l'évolution de la langue, à partir de l'étude de ce corpus. Ben, le premier étudiant qui s'y est mis, ça date d'il y a 2 ans. Pour l'instant, il est tout seul. Ben, disons que je lui fais un petit coup de main, mais enfin bon. Ensuite, il y a une autre catégorie, une autre corpus facile, ben, tout le monde, tous mes livres connaissent, qui est les vies de saints. Vitae Sanctorum. Il y a un index qui a été fait par les bons pères, la Bibliotheca Hagiographica Latina. Donc un répertoire de toute une vie de saints latines. Il y en a 9000. Et les textes sont plus longs que les chartes. Bon. Et c'est réparti depuis le 4e siècle jusqu'au 18e, sur toute l'Europe, pareil. Donc ça fait un énorme corpus qui couvre toute la plus grande partie de la période, plus grande partie de la zone. Alors ça c'est terra incognita, ça n'intéresse personne. Les catholiques ne veulent pas entendre parler parce que les saints, mon Dieu, c'est moi on en parle, mais on se porte. Et puis les pas catholiques, parce que les médecins, c'est du folklore, ça n'a aucun intérêt. Donc alors là, ils sont ni datés, ni localisés, il n'y a pas d'auteur. Ça, c'est vraiment le... Et c'est facile, il y a un CD-ROM, les Acta Sanctorum sont sur CD-ROM, avec des formats de texte. Il n'y a aucune protection. Il y en a beaucoup qui sont numérisés sur Internet. Et puis il y a une chose encore, une troisième chose qui m'intéresse énormément, c'est la microtoponymie. Donc, comme vous savez sans doute, les fichiers de l'IGN sont domaine public maintenant pour tous les chercheurs et enseignants. Enfin, toute fonction de recherche, vous demandez à l'IGN, vous remplissez un papier, vous donnez des codes, vous pouvez récupérer. Donc, vous récupérez, géolocalisé, 1 700 000 toponymes français. Donc, tous les toponymes, tous les noms de lieux qui sont sur les cartes au 25 millième sont en fichier, en chèque, comme on vous l'explique. Et vous avez ça sur votre machine. Donc vous pouvez les interroger, faire toutes les excentricités que vous voulez avec ces chèques. Qui les chèques, vous savez, c'est d'une part un fichier vectoriel avec des points et des lignes d'école, enfin, oui, des points, et d'autre part un fichier en format des bases qui vous donne sous forme tabulaire simple toutes les informations possibles et imaginables sur les points, les lignes et les surfaces. Hein. Donc c'est assez facile, une fois qu'on a compris comment ça marche. Et donc la microtoponymie. J'ai une masse d'informations colossale, et moi je suis persuadé que la plupart de ces microtoponymes sont d'origine médiévale, en tout cas en France. Donc il reste juste à retrousser mon manche. Voilà. Et donc je vous ai donné là juste 3 petits exemples. Donc je passe au troisième point qui est celui qui m'intéresse le plus. Quelque chose qui perturbe et qui irrite beaucoup de collègues. Quand j'explique mes preuves à l'appui, en réalité, ces textes, on arrive à les transcrire, parce qu'on sait un peu de paléographie, on sait du latin, etc. Mais on ne peut pas prétendre qu'on comprend ce qui est écrit. Et ceux qui prétendent le contraire racontent des conneries. Grâce à quoi l'histoire médiévale, c'est une vaste foire dans laquelle on raconte n'importe quoi dans n'importe quel autre et que ça n'a aucun sens. Et qu'un esprit normalement constitué trouve que c'est des histoires pour les enfants. Ce sont effectivement ce que vous trouvez dans les manuels d'histoire médiévale, ce sont des contes pour les enfants. Pas beaucoup de différence avec les contes de Grimm, sauf que les contes de Grimm, c'est plus drôle. Ça vaut la peine d'être numérisé les contes de Grimm. Ils sont numérisés. Alors, cette idée très simple, je ne suis pas quand même pas moi qui l'ai découvert, c'est-à-dire l'idée que les mots changent de sens. Mais qui ne change pas individuellement. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs mots dans une notion, s'il y avait 4 mots, puis qu'il y en a un cinquième qui s'ajoute, les 4 précédents changent de sens, c'est obligé. Et ainsi de suite. Donc on ne peut pas étudier les mots un par un, contrairement à ce qu'on a toujours fait au 19e. L'histoire des mots du 19e, ou l'histoire des mots que vous trouvez dans le Robert des. Comment ça s'appelle ? Il y a un dictionnaire Robert en trois volumes rouges, là, qui est dans un petit bloc, donc ça ne nous dit rien. C'est pas grave. Enfin, dans lequel il fait la philologie. Enfin, c'est un seul historique
français.
Oui, c'est ça.
Grand Robert, en fait.
C'est l'histoire culturelle du français, non ? C'est pas l'histoire culturelle du français, en quatre tomes, dans un petit coffret en plastique.
Petit coffret rouge, voilà. Et donc, ça vous donne pour chaque mot une idée de son apparition, de son évolution, etc. Parce que dictionnaire étymologique, ça s'appelait jadis. Hein. Donc ça veut dire qu'on va vous donner l'histoire de chaque mot. L'histoire de chaque mot, c'est pas inintéressant, mais ça vous ouvre pas vraiment. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que les mots sont pas... Le vocabulaire, c'est pas un tas de mots. Le vocabulaire, c'est une structure. Et donc dès qu'il y a un élément qui change la structure, toute la structure change. Et ce qu'on étudie, d'ailleurs, ce ne sont pas les éléments, ce sont les relations entre les éléments. Donc ce que je me fiche complètement du sens d'un mot, ce que je veux voir, c'est la relation entre les mots. D'ailleurs, le sens lui-même est fait de relation, il n'est pas fait d'objet. Bref, on va vous lancer dans une théorie noire, mais ça c'est les linguistes qui sont chargés de ça. Bon, alors, donc si vous voulez, les collègues traduisent imperturbablement, vous prenez une charte, tout ça, et hop. D'ailleurs, c'est l'exercice qu'on donne aux étudiants, traduisez-moi cette charte. S'il n'y a pas plus idiot que ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas traduire une charte, il n'y a pas de mot français contemporain pour rendre le sens des mots du XIe siècle, parce qu'on ne vit pas dans la même société. Comment voulez-vous que dans deux sociétés différentes, on considère on désigne les mêmes choses. On ne peut pas désigner les mêmes choses. Quand vous parlez de maison, vous ne désignez pas une cabane en bois et réciproquement. Voilà. Vous n'avez pas une idée ce que c'est quand vous voyez domus, quand vous voyez vinea, campus, vous ne savez pas ce que c'est. Campus, le champ. Oh, oui. Sauf qu'un champ, un champ de blé cultivé avec un tracteur de 300 chevaux et une moissonneuse batteuse de 20 mètres de large, ou alors avec une arère, puis c'est pas les mêmes espèces de blé, c'est pas les mêmes cultures, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes prélèvements, ça n'a rien à voir. Donc campus ne veut pas dire champ. Et ainsi de suite. Et tous les mots du latin médiéval, et en particulier les plus courants, les plus importants, sont strictement intraduisibles. Vous pouvez les gloser, vous donner une explication, dire attention, il faut voir que, il y a ceci, il y a cela, c'est ce qu'on peut dans quel contexte, il n'y a rien. Mais prétendre donner une traduction, c'est se moquer du mot. Donc ça veut dire qu'il y a un problème énorme que moi j'appelle le problème de la sémantique historique. Ça veut dire simplement essayer comme on peut, sans trop savoir comment. Enfin, on sait qu'il y a une difficulté, donc on essaie de trouver des solutions. Donc, des bouts de solutions, et puis on va essayer de progresser par approximation successive pour mettre de l'ordre dans tout ça et pour essayer de comprendre. Bon, d'abord, de voir que tel mot, ben, campus, ça ne va pas tout seul, ça va par exemple avec terra, ça peut aller avec vinea, atom, silva, c'est-à-dire que les principaux termes de land use, d'utilisation du sol. Bon. Eh bien oui, mais il faut savoir quels ils sont. Donc c'est là que TXN est un outil phénoménal. Et merci aux concepteurs, aux fabricants et aux développeurs qui ont des services colossaux. Et moi, je m'en sers en permanence toute la matinée, toute l'après-midi pour essayer de comprendre. Donc, en pratique, qu'est-ce que je fais ? En pratique, je suis sur le corpus des textes de Saint-Augustin. Pas catholique, mais c'est dit, pas. Saint-Augustin, c'est un auteur fondamental pour le Moyen-Âge, puisque c'est lui qui crée, d'une certaine façon, le système de représentation médiévale. Et tout est numérisé depuis belle lurette, donc j'ai ça sur ma petite machine, il y a 6 millions et demi de mots, 140 textes. Bon. Et bien, il est matisé. Et tout ça, pressuré avec TXL. Et donc ça fait des semaines que je travaille avec ça et que je n'ai pas vu le bout et il s'en fout de moi. Donc je fais je compare des fréquences. Alors ça c'est très bête, ça ne devrait pas se faire, mais bon. Savoir si un mot est 10 fois plus fréquent qu'un autre, il y a peut-être une raison. Par exemple, avant-hier, je me dis, tiens, comment est-ce qu'on dit ? Enfin, il y a un adjectif terremus. Il y a un adjectif terrestris. Après, ça veut dire la même chose. En français, si on traduit, on va mettre terrestre dans les deux cas. Mais alors, pourquoi il y a deux mots différents ? Simplement, terre et mousse est 10 fois plus enfouie que terre et strisse. Pour l'instant, c'est la seule, différence, qui est quand même bon. Mais la fréquence est constante entre les divers textes. C'est-à-dire, Saint-Augustin, dans certaines conditions, utilise plutôt terre et strisse que terre et mousse, et je n'ai pas encore réussi à comprendre pourquoi. Ça m'énerve. Parce que, normalement, je dois arriver à comprendre. Je sais pas. Si, Augustin était sans doute plus malin que moi, mais enfin, quand même, il faut que si je m'accroche, je devrais y arriver, etc. Parce que sur d'autres termes, j'ai compris des choses qu'aucun collègue n'avait compris en moi, grâce à TXM, c'est-à-dire que en latin classique, on utilise un mot, subitement, dans les périlises, il y en a deux pour dire la même chose, et donc à ce moment-là, on fait des co-occurrences, donc on part des listes de co-occurrences. Et on voit si c'est les mêmes verbes qui y arrivent, ou si c'est les mêmes... mettons par exemple un nom, on va voir si c'est les mêmes verbes, par rapport à quel verbe ce nom circule, et quels sont les adjectifs qui collectent. Rien que ça, déjà, moi je suis vieux jeu, hein, j'utilise le papier, donc je regarde mon écran, puis je copie, et puis ensuite je fais un tour dans mon journal, puis je reviens, puis je dis bon, alors puis je commence avec du triangle rouge, et au bout de 10 minutes, je dis bon, en gros c'est ça, en gros c'est la différence. Alors à ce moment-là, je reviens, je prends la concordance, et je regarde la concordance pour voir si mon hypothèse tient debout, c'est-à-dire si les phrases. Si maintenant, avec cette hypothèse que d'un côté ça veut dire ci, d'un côté ça veut dire ça, est-ce que ça paraît plausible par rapport au texte lui-même? On peut difficilement faire plus empirique, hein. Mais enfin bon, je ne suis pas capable de faire bien plus hein, en ce moment. Donc si vous voulez, je travaille uniquement avec les lèvres, parce qu'en latin il y a tellement de formes différentes que franchement ça n'a pas de sens de travailler avec les formes. Donc lématiser c'est une base, parce que si vous voulez en plus latin, le latin médiéval, il n'y a pas de graphie. Le même mot, la même forme grammaticale, va s'écrire de plusieurs façons différentes. On ne peut faire deux stats, là, de coincer, donc il faut les matiser. Je les matise, je mets un poste, j'en ai remis beaucoup, je distingue les substantifs, les verbes, les adjectifs, les adverbes, enfin, 12 catégories, c'est un maximum. Donc j'affiche uniquement les verbes, les lèmes verbaux qui vont avec tel mot. Et là, je me pressure la cervelle, puis là, très avantageux, TXM, parce que quand vous avez la liste des concordances, vous cliquez dessus, vous y avez l'affichage de la concordance. Donc vous y apparaît le pivot plus le terme qui co-occure que vous avez sélectionné, vous avez toutes les occurrences. C'est phénoménal. Donc avec ça, je ne dis pas qu'on va pas la proposition, mais on avance. Hein. Donc je pense qu'au total. Alors, si vous voulez, je suppose que vous avez tous lu et relu les ouvrages, enfin il n'y en a pas beaucoup, les ouvrages de Joost Trier, pour moi c'est la Bible. Joost Trier, c'est Wortfeld-Forschung. Malheureusement, il n'y a pas un seul texte traduit en français, c'est tout en allemand. Donc c'est la théorie des champs sémantiques telle qu'elle a été élaborée dans les années 30. Et à ma connaissance, les linguistes, les Chomsky et compagnie n'ont pas fait mieux, n'ont fait moins bien. Cette idée fondamentale qu'il y a trois choses à distinguer, et que si on ne les distingue pas correctement et si on n'en tient pas compte en même temps, il faut à la fois distinguer et mettre ensemble. Il y a les mots, le vocabulaire, il y a les notions et il y a la société qui les emploie. Donc on ne peut pas passer, c'est pas verbe à écrire à lire, comme on disait au 19e siècle, on passe par des mots aux réalités, ça n'existe pas. On passe par une étape clé qui est la notion représentée. Qu'on soit présent, et qui est très très difficile à cerner, bien sûr. Mais c'est ça qu'il faut cerner si on veut pouvoir comprendre le rapport qui existe finalement quand même entre les mots et la société, et pourquoi quand on voit changer les mots, qu'est-ce que ça implique dans le changement du système de représentation, et à ce moment-là, quelle est la relation avec la société. Pour mon historien, c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'est-ce que représente Saint-Augustin, la construction de Saint-Augustin par rapport à la société romaine du IVe siècle. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé brutalement, en tout cas ça nous sortait d'une série de choses. Je commence à y voir plus clair grâce à TXM. Merci TXM. Je vous remercie.
Alors, donc, est-ce qu'on va commencer par des questions spécifiques, si vous en avez, avant de laisser la parole à Virginie Lethier? Donc vous gardez vos questions pour la table ronde. Hein. Donc maintenant,
je suis sourd comme un pont, attention, donc il faut vous répéter clairement, fortement.
Est-ce qu'on peut écrire au tableau le nom de cet Allemand?
Donc, je
l'espère. Pourquoi c'est
légitime? Donc, l'allemand qui a écrit Gottfried Forschung.
Comment?
L'auteur qui a écrit Gottfried Forschung.
Ah!
Donc, en fait, je suis pas présent en tête, mais il y a deux volumes, enfin il y a un volume, c'était ça, son habilitation. C'est sur le vocabulaire de la raison, du raisonnement en Mittelbourg de Rich, du 14e siècle. Ça, c'était son habilitation. C'est ça qui est considéré comme la base. C'est un truc qui fait 250 pages. Et puis, il a fait une série d'articles, il y a eu une grande discussion dans les années 30, qui ensuite d'ailleurs s'est interrompue. Il y a eu 8 ou 10 collègues qui ont participé. Et les textes donc, ont été rassemblés. Et donc, sous le nom de Trier, quand vous farfouillez sur les bibliothèques ou sur Internet, vous avez un recueil des Aufsätze de Trier avec les principaux textes qu'il a écrits pour préciser sa pensée.
Et si je me souviens bien, à l'arrêt, on a fait une présentation assez précise. Je ne sais plus si c'est dans mon livre de 92 ou si c'est dans les deux volumes sur la sémantique qu'il a fait chez Kinzig. Donc on a un point d'entrée assez classe et assez précis. Non, c'était un peu.
Mais c'est-à-dire que ce que je trouve quand même ahurissant, c'est qu'on traduit en français des tas d'ouvrages qui n'ont aucun intérêt à mes yeux simplement médiocres, alors que ça, qui n'en a pas très long. Alors apparemment il y a des questions de droit, c'est-à-dire que les éditeurs, je pense à Carl Binder, je ne sais quoi, ils sont assez chiatiques sur les droits et prétendent faire payer je ne sais qui, je ne sais quoi. Donc ça s'est bloqué. Et puis en même temps, ce qu'il y a, c'est que ce type, il était ethnologue. Il a commencé comme à faire de l'ethnologie régionale. Il a fait sa thèse sur le culte du Yodokus dans la région de la Moselle. Et finalement, c'est son patron de thèse qui lui a donné cette idée. Il a fait sa habilitation, il s'en est occupé, puis il est allé voir autre chose. Donc il était pauvre. Il s'occupait de société, il s'occupait d'histoire, il était linguiste par-dessus le marché, il n'était pas franchement linguiste, il n'était pas franchement historien. Donc il n'a jamais été considéré comme un historien, ni comme un linguiste. Donc les linguistes ne veulent pas entendre parler, les historiens non plus. Voilà. En gros, c'est ça.
Merci.